En cette nuit, alors que nous autres, nous venons célébrer, souligner, faire mémoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce moment même dans notre monde et parfois même autour de nous, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas au récit de la création tel qu'il a été lu dans la première lecture. Il y a des gens qui ne croient pas non plus en la résurrection. Vous avez vu sans doute, il y a eu une manifestation qui avait eu lieu en France où des femmes, des femmes qui sont allées et puis disaient Jésus-Christ est un anarchiste. Vous savez, dans d'autres endroits, on a considéré Jésus-Christ comme simplement révolutionnaire. La résurrection pose problème aujourd'hui dans le monde. Dans notre société occidentale, qui a été la première société à parler, à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aujourd'hui de plus en plus, notre société est tout près autour de nous, s'est envahie maintenant par l'idée de ce qu'on appelle plutôt la réincarnation. Les gens n'acceptent pas la résurrection, mais ils croient plus facilement à la réincarnation. Parfois, nous le retrouvons sans nous rendre compte. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une carte. Le message, c'était sur la réincarnation. Mais la personne, innocemment, il ne voyait rien de mal. Il véhiculait un message. Il professait une foi, mais à laquelle, en fait, en réalité, il n'adhérait pas. Donc, nous sommes face à cette réalité où des gens, parfois, qui ont grandi dans la religion et aujourd'hui refusent de croire, ils refusent de croire en Dieu. Nous sommes face à des gens qui ont entendu parler de Jésus-Christ, mais qui refusent de croire qu'il est ressuscité. Nous sommes face à des gens qui ont entendu parler de la résurrection, mais qui aujourd'hui pensent qu'il est mieux de comprendre et d'accepter la réincarnation plutôt que la résurrection qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la résurrection nous renvoie toujours à un lendemain et ça nous envoie à un jugement, alors que la réincarnation, c'est que si tu n'as pas réussi à atteindre ta plénitude, tu reviens dans une autre vie pour reprendre ce que tu as manqué, ce que tu as raté. Et alors une succession de vies est possible à travers laquelle tu as la chance de te parfaire. La résurrection est dite c'est une fois, mais c'est pour le jugement. Et nous sommes là ce soir. Nous sommes là pour proclamer, pour confesser, pour déclarer, pour faire mémoire de cet événement qui a eu lieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit, si nous avons mis notre foi en cette vie seulement, nous sommes le plus à plaindre. Mais c'est parce que Christ est ressuscité d'entre les morts que nous aussi, nous pouvons nous mettre ensemble et continuer à croire en Dieu parce que c'est lui qui rend le bien à ceux qui ont fait le bien et le mal à ceux qui ont fait le mal. Notre Dieu, c'est celui-là. Dans le récit que nous venons d'entendre, il est question de quoi? Question de, premièrement, la création. La première création. Remarquez, tout au long des lectures, si vous avez fait attention, il n'y a qu'un seul auteur, il n'y a qu'un seul acteur. C'est Dieu. Au commencement, Dieu crée seul. C'est lui qui prend l'initiative de créer. La parole de Dieu dit, tout était informe, sans forme. C'est Dieu qui prend l'initiative. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est lui qui prend l'initiative de mettre de l'ordre dans la création. La création, si on peut la définir, la première création, c'est un appel à l'existence et une mise en ordre. C'est l'ordre que Dieu met dans la création. Il met un ordre, mais aussi il met une hiérarchie. Voilà ce que Dieu fait dans la création. Et il est le seul acteur. Quand l'être humain apparaît dans la création, il trouve tout déjà préparé, tout est déjà créé. Il voit ce que Dieu a déjà fait. Dieu est le seul acteur. Parfois, nous avons tendance à demander des comptes à Dieu. Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi celui est arrivé? Il est le seul acteur. On n'était pas là quand Dieu a créé. Il est le seul qui peut dire je permets ceci ou je ne permets pas ceci. Nous devons nous rendre compte de cela. Mais regardez dans l'acte de la création, ce que nous voulons souligner ce soir, c'est quoi? C'est cet amour que Dieu a dès le départ de créer l'être humain à son image, à sa ressemblance, et de l'établir sur la terre afin qu'il règne comme lui, Dieu règne dans le ciel. En d'autres termes, si on cherche Dieu sur la terre, on devait le trouver non pas dans le bœuf, non pas dans la chèvre, non pas dans le serpent, mais dans l'être humain. Ça, c'est la première chose que Dieu veut en établissant l'être humain sur la terre. Deuxièmement, il lui donne un ordre. C'est-à-dire, il a mis de l'ordre dans la création et dit à l'homme, à l'être humain, c'est à toi maintenant à gérer cet ordre, mais c'est à toi aussi à gouverner les autres créatures que j'ai faites. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Ce qui se passe aujourd'hui, on a changé l'ordre de Dieu. On a changé l'ordre de Dieu. Les gens qui vont dire qu'ils n'ont pas assez de temps, ils vont trouver beaucoup de temps à faire promener leurs chiens qu'à prier Dieu. Nous avons renversé l'ordre. Promener un chien, est-ce que c'est un mal? Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas mal. Quand on apprivoise un animal, il faut en prendre soin. Mais ce que je suis en train de dire, quand l'ordre est renversé, ce qui devait venir en premier prend la dernière place et ce qui devait venir en dernière place prend la première place. C'est là où il y a des problèmes avec Dieu. Parce qu'il a créé en appelant les choses à l'existence et en mettant de l'ordre. La première création, il la soumet à l'être humain. Gérer, gouverner, maintenir l'ordre que je veux. Nous avons une grande responsabilité, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens. Nous sommes appelés d'abord à mettre de l'ordre dans notre vie. Nous sommes appelés à mettre de l'ordre dans notre communauté. Nos communautés chrétiennes doivent être ordonnées. Être ordonnées. On doit sentir l'ordonnance et l'ordre dans la communauté chrétienne passe par le respect. Le respect les uns par rapport aux autres, mais le respect aussi de l'autorité qui est établie. C'est-à-dire que, comme là, nous sommes trois, c'est moi qui préside. C'est ça qui se passe. Même si je n'étais pas le curé, même si c'était l'abbé Serge qui présidait ici, moi, pendant qu'il préside, il est en position d'autorité, je dois me soumettre à lui. C'est ça l'ordre, le respect dans la communauté. Et quand chacun respecte l'autre, alors il y a l'harmonie et alors nous devenons comme un témoignage pour le monde. Mais si nous changeons l'ordre, nous prenons les habitudes du monde, nous venons avec dans l'église, alors ça devient difficile, nous, d'être un témoin pour le monde. Nous avons commencé notre célébration dans l'obscurité. La parole de Dieu dit, même si l'obscurité envahit l'univers entier autour de toi, toi, ta lumière brillera. Toi, ta lumière doit briller. La communauté chrétienne, c'est le lieu où nous tenons, nous avons tenu ensemble des cierges allumés pour que notre lumière brille au milieu des ténèbres. Même quand nous sommes dans le monde, notre lumière doit briller, la lumière du Christ qui est en nous. Ça, c'est la première création, c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Alors, la parole de Dieu nous dit, au-delà de cette première création, il y a un cheminement parce que l'être humain, depuis le commencement, n'a pas été capable de respecter l'ordre établi, ni la parole de Dieu, ni Dieu lui-même. Il s'est tourné vers l'ennemi, le diable, qui est venu lui aussi avec sa lumière, Lux Feri, Lucifer. Vous savez, ceux qui côtoient les francs-maçons, il y en a beaucoup ici dans la région, les francs-maçons. Ceux qui côtoient les francs-maçons, vous savez, il y a une fille, une jeune dame qui est venue me voir. Alors elle dit, mon père est venu me visiter, mais nous étions sortis et il avait oublié des affaires dans sa chambre. Et là, je les ai laissées au magasin parce qu'il voulait absolument avoir ses affaires. Je suis rentré dans sa chambre et là, je vois un livre ouvert. Je dis, ah, papa a pris. Et là, il regarde dans la prière. La première chose, c'était une prière qui était adressée au Dieu Lumière. Et dans la prière de Dieu Lumière, finalement, à la fin et au milieu, par-ci par-là, en fait, le Dieu Lumière, c'était Lucifer. Cette prière dit merci à Lucifer. Pourquoi? Parce que il dit, lui au moins est venu voler la puissance de l'intelligence, la lumière de l'intelligence, et il l'a révélée à l'être humain, alors que l'autre Dieu, lui, avait caché cela et il avait interdit à l'homme de toucher. Alors ils disent merci au Dieu Lumière, c'est-à-dire Lux Ferre, Lucifer. On lui dit, les francs-maçons dans leur prière, je vous l'ai dit là, ils lui disent merci parce que c'est lui qui a permis à l'être humain d'accéder à une intelligence illimitée grâce à cet arbre de connaissances qu'il a pu donner, dont il a donné le fruit à Adam et Ève. Imaginez. À cause de cela, l'homme a perdu son premier rapport avec Dieu. Et alors, il a été coupé, séparé de la gloire de Dieu. Nous avons entendu toute l'histoire de l'Exode. Nous avons entendu dans la dernière lecture, dans toute l'histoire encore, comment Dieu, dans le livre d'Isaïe, vient encore dire, « Vous avez profané mon nom partout où vous êtes passé. » À partir de ce moment-là, l'être humain était devenu un profanateur du nom de Dieu. Dieu le considérait comme son peuple, mais l'être humain, lui, était tout le temps tourné vers d'autres dieux. C'était la plus grande blessure que l'être humain a fait à son Dieu, c'est d'adorer des idoles, l'idolâtrie. Se tourner vers d'autres dieux. La Bible appelle cela infidélité. Dans la Bible, le mot infidélité, c'est d'abord cela. Quand l'être humain se tourne vers d'autres dieux que celui à qui il a voué sa vie. Nous allons renouveler notre confession de foi cette nuit, comme pour dire à Dieu, nous n'adorerons pas d'autres dieux que toi. Nous croyons en toi, nous croyons en ton Fils, nous croyons à ton Esprit Saint et nous croyons en ce que tu es en train d'accomplir dans ton Église. C'est pour cela que nous allons renouveler cela. La plus grande infidélité de l'être humain, c'est d'abord quand il se sépare de Dieu en se tournant vers d'autres dieux. Et c'est ça que l'être humain a fait dans tout ce qu'on vient de lire ce soir. À partir de la première création, l'être humain s'est séparé de Dieu. Et nous voyons comment, encore là, Dieu reprend le contrôle. C'est encore lui et lui seul l'acteur. Remarquez, dans le livre d'Exode, quand il fait le plan de libération du peuple qui est resté 450 ans en esclavage en Égypte. C'est Dieu qui prend l'initiative. Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu leurs cris et j'ai décidé d'intervenir car je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, leur père. Maintenant, je te donne mon plan. Toi, tu vas aller voir Pharaon et tu vas parler au peuple. Mais s'ils me demandent, qu'est-ce que tu diras? Tu leur diras, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de vos pères, le Dieu plein de miséricorde m'a envoyé pour vous dire, voici le plan de libération. C'est Dieu qui prend l'initiative. Il a pris l'initiative de la première création, il prend l'initiative de l'exode, c'est-à-dire la sortie. Nous sortons d'un état pour entrer dans un autre état. La sortie de notre état d'esclavage pour entrer dans un état de liberté totale. Dieu qui prend l'initiative. Ce n'est pas l'être humain. C'est ça l'histoire du salut. C'est Dieu qui prend l'initiative. L'histoire du salut, c'est cela. Dieu prend l'initiative de sauver l'être humain. Mais notre problème ce soir, c'est quoi? Nous devons coopérer. Parce que Dieu respecte notre liberté. Alors Dieu a pris l'initiative de faire sortir. Le Pharaon À un moment donné, il s'est rappelé, il dit, mais on a laissé partir ce peuple, mais qui va travailler pour nous? Et il demande à l'armée, poursuivez-les, nous avons besoin de la main-d'œuvre. Dieu qui prend l'initiative donne un plan lui-même à Moïse. Tu vas lever ton bâton et ta main. Alors, je vais fendre la mer en deux et le peuple passera à pied sec. Dieu prend l'initiative. Ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs. C'est le message de ce soir. C'est Dieu qui prend l'initiative. Nous devons coopérer. Je vous ai dit, pendant tout le temps de carême, je vous l'ai dit le jeudi saint, je vous l'ai dit le vendredi, ce n'est pas vos sacrifices qui vont vous sauver. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez marcher à genoux, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Si vous ne comprenez pas le point de départ, que c'est Dieu d'abord qui sauve, qui prend l'initiative et que vous, vous ne faites que coopérer, si vous pensez que par vos sacrifices, vous allez vous sauver, vous êtes déjà à côté de ce que la parole de Dieu est en train de nous donner comme message ce soir. C'est Dieu qui prend l'initiative. Si Dieu ne prend pas l'initiative dans votre histoire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous resterez dans l'esclavage. Dieu a pris l'initiative de sortir le peuple de l'esclavage. C'est lui qui leur a donné la direction. C'est lui qui les a nourris pendant le désert, à travers le désert. C'est lui qui les a guéris quand ils étaient mordus par le serpent. C'est Dieu qui prenait l'initiative de donner la solution. Toujours. C'est pour cela que quand nous comprenons cela, c'est Dieu encore qui prend l'initiative de sanctifier son propre nom parce qu'il a été profané dans les nations païennes. Et il dit, vous prendrez l'eau, avec l'eau, je répandrai mon eau pure sur mon peuple et à travers ces gestes, ils seront purifiés. Et ce soir, vous allez voir, on va répandre de l'eau sur vous. Il y a des gens qui posent des gestes de refus. Il y a des gens qui vont faire ça. Dieu merci, parce que Dieu est libre. Ça, en psychologie, c'est l'attitude de quelqu'un qui dit « Non, je n'en veux pas. » Mais Dieu est libre. Il respecte notre liberté. Il y a des gens qui vont faire ça ce soir. Mais nous allons passer ce soir avec l'eau, comme le dit la parole de Dieu, la dernière lecture. « Je répandrai mon eau pure sur vous et vous serez purifiés. » C'est Dieu qui prend l'initiative. Nous coopérons. Et je vous l'ai dit encore hier, si nous faisons des choses juste par routine, nous tombons dans l'idolâtrie. L'eau ne peut pas purifier le cœur de quelqu'un. Si vous ne connectez pas avec cette parole, je répandrai sur vous mon eau pure et vous serez purifiés. Vous serez à côté de ce que Dieu veut faire ce soir. L'eau en lui-même ne peut pas purifier un cœur. L'eau ne peut purifier que la peau. Mais quand nous allons le faire ce soir, c'est parce que Dieu l'a dit. Parce qu'il y a une parole qui soutient le geste que nous allons poser. Vous devez être connecté à cette parole. Je reçois ma purification dans la dimension spirituelle. Parce que tu as dit, je répandrai mon eau sur vous et vous serez purifiés. Nous allons recevoir cette eau pour la purification. Notre façon de coopérer à l'œuvre que Dieu est en train de faire pour nous sauver. Et dans l'évangile, nous venons d'entendre encore, c'est Dieu qui prend l'initiative. L'esprit qui était là au début de la première création est encore là à la résurrection. La parole de Dieu dit, voilà, les femmes sont allées, la pierre était là, mais c'est Dieu lui-même qui s'est occupé d'enlever la pierre en envoyant ses anges. C'est ni les apôtres, ni les femmes. Quand ils sont arrivés, la pierre était déjà enlevée. Encore là, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Parfois, nous nous donnons des titres, parfois nous nous donnons de gloire, de mérite, mais nous nous oublions cette vérité fondamentale. C'est Dieu qui prend l'initiative. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Et c'est ça que nous rappelons ce soir. Dieu a pris l'initiative d'enlever la pierre pour permettre à ces femmes d'entrer dans le mystère de la résurrection. Et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la parole de Dieu dit l'Esprit qui était au commencement. L'Esprit qui a mis de l'ordre a remis de l'ordre dans le corps de Jésus-Christ. Il a remis l'ordre. La vie, l'âme et le corps se sont remis ensemble en ordre. Et le corps de Jésus a été élevé dans une autre dimension. La résurrection, c'est encore l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Voilà pourquoi c'est important, chers frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de foi, dans notre cheminement chrétien, de ne pas oublier ce fait-là. Dès que nous commençons à faire des choses, à organiser des choses sans Dieu, nous sommes déjà perdants. C'est Dieu qui doit prendre l'initiative. C'est pour cela que vous voyez, nous prions avant de commencer quelque chose. C'est pour cela que nous allons nous référer à Dieu avant d'initier quelque chose. Parce que s'il n'est pas avec nous, tout ce que nous bâtissons est vain. Et alors, la résurrection que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi la nouvelle création. Je vous ai parlé de la première création qui est l'œuvre que Dieu a faite en 6 jours et qu'il a confiée à l'être humain. La nouvelle création est l'œuvre que Dieu fait à partir du moment où nous accueillons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, ou à partir de notre baptême. Nous entrons dans ce mystère de la première résurrection. C'est-à-dire que nous passons d'un état de pécheur, de condamné, à un état de racheté. C'est la première, on appelle ça parfois la nouvelle naissance. Comme nous sommes nés la première fois du sein de notre mère, et la deuxième fois nous naissons dans la dimension spirituelle. Et viendra finalement la dernière résurrection après notre mort, où nous allons ressusciter comme Christ, et alors nous aurons des corps glorieux. C'est à cela que nous sommes appelés. Au-delà de tout cela, n'oublions pas un fait, la parole de Dieu nous dit, Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Pendant tout ce temps de carême, le jeudi saint, le vendredi saint, aujourd'hui je vous le répète, dans l'Ancien Testament, la Pâque, c'était une cérémonie. L'ensemble des gestes, des actes, il devait manger ceci, il devait tuer, il devait faire ceci. Il faisait beaucoup de choses en termes de cérémonie. Dans le Nouveau Testament, la Pâque, c'est une personne qu'il faut rencontrer. Et cette personne, c'est le Christ. La Pâque, ce n'est pas ce que nous faisons d'abord. La Pâque, c'est d'abord une personne, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous pouvons le rencontrer n'importe quand, même à Noël, même pendant le carême. Nous pouvons faire l'espérance de la résurrection à partir du moment où nous rencontrons Christ dans notre vie. Alors, il y a la résurrection, il y a Pâques devant nous. C'est pour cela que vous voyez, même pendant le temps de carême, le temps de l'Avent, nous continuons dans notre liturgie à rappeler la mort de Jésus-Christ, hein, n'est-ce pas, sa passion, sa mort et sa résurrection. À chaque messe, même pendant le temps de carême, nous proclamons la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de Christ, il est ressuscité. Et à cause de cela, nous pouvons ressusciter à tout moment où nous faisons la rencontre avec le Christ ressuscité. Cette rencontre est nécessaire si nous voulons faire l'expérience de la résurrection, parce qu'il est en même temps le chemin qui nous permet de faire l'expérience de la résurrection. Chers frères et sœurs, nous avons commencé notre célébration dans l'obscurité, et voilà que toute la salle est éclairée. C'est la mission qui nous est confiée. La mission après Pâques, après cette messe de Pâques, nous sommes invités justement à rayonner. Chaque fois que nos lumières, qui sont comme des chandelles, resteront allumées, voici ce que ça donnera. On pourra se voir, on pourra distinguer les choses, on pourra voir mettre de l'ordre parce que la lumière sera là. Et cette lumière, c'est la lumière qui jaillira de chacun de nous la lumière du Christ ressuscité. Mais nous avons la responsabilité aussi de transmettre cette lumière à d'autres. Et quelqu'un peut me donner un cierge? Donnez-moi un deuxième cierge. Allumez le deuxième cierge. Alors nous allons faire un exercice pratique pour terminer. J'ai avec moi deux cierges. Celui-là n'est pas allumé, l'autre est allumé. Qu'est-ce que vous pensez entre les deux cierges? Lequel peut transmettre la lumière? Bon, même si vous refusez de répondre, la réponse est là. Il n'y a que celui-là qui peut transmettre la lumière. Mais quand est-ce qu'elle peut transmettre la lumière? C'est quand il est allumé. Quand on l'éteint, il ne peut plus. La lumière se transmet quand le cierge est allumé. C'est là qu'on prend la lumière et ça passe d'un cierge à un autre. Mais si les deux sont allumés, je peux passer tout mon temps à chercher à allumer, ça ne passera pas. Le problème aujourd'hui, c'est celui-là. Nous avons éteint nos lumières. Nous avons éteint nos lumières et ça ne passe pas. Je prie Dieu, chers frères et sœurs, qu'en cette fête de Pâques, nous puissions rencontrer le Christ ressuscité et que sa lumière brille en nous pour que nous puissions la transmettre, parfois même sans parole. Même sans parole, que nous puissions transmettre cette lumière. Alors, Christ est notre Pâques. Je demande au Seigneur que vous aussi, vous soyez Pâques pour le monde. Amen.